Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Je vous rappelle que chaque jour, on met en ligne l'un des moments forts de l'émission, la séquence qu'on appelle les yeux dans les yeux, l'entretien entre Agathe Le Caron et son invité. Et puis derrière, on met en ligne le débrief, on va l'appeler comme ça en bon français, les commentaires du sujet du jour. Et justement, le sujet de ce lundi, forcément très intéressant et qui va forcément vous rappeler l'âge de l'adolescence, vous parler bien sûr si vous-même vous avez un pré-ado ou un ado à la maison, puisqu'aujourd'hui on parle des complexes. Comment se construire en ayant un complexe, un gros complexe, surtout dans ces âges à partir de 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans, pendant l'adolescence, c'est le thème du jour. Donc vous allez d'abord écouter le témoignage de Pauline, puis le commentaire, l'analyse, les conseils de la psychologue Sophie Brown. À tout à l'heure.
Bonjour Pauline, vous avez 19 ans, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en design à Rennes et vous êtes atteinte d'alopécie. Alors évidemment, ça vous a complexé pendant de nombreuses années. Et pour casser les codes, pour briser les tabous, vous avez choisi de libérer la parole, de partager votre histoire sur la toile. Et c'est une manière évidemment de transformer votre complexe, d'en faire une force. Donc ça va, j'espère, inspirer toutes les personnes qui nous regardent, tous les parents qui ont peut-être des enfants qui sont complexés. Alors, on va revenir en arrière si vous le voulez bien. Déjà, à l'âge de 7 ans, on vous a annoncé que vous souffrez d'alopécie. Vous aviez déjà des petits symptômes ?
Alors moi, je me coiffais un matin et je me suis rendu compte qu'à l'arrière de mon crâne, il me manquait des cheveux. Mmh. Du coup, là, tout de suite, on a été voir ma coiffeuse puis mon médecin traitant qui m'ont posé le diagnostic. Et c'est comme ça en fait que j'ai su que je faisais justement une pelade.
Voilà, une pelade. Donc c'est une maladie auto-immune. Ça vous fait perdre petit à petit vos cheveux. Comment vous avez réagi vous quand on vous a dit ça ?
Moi, à 7 ans, je comprenais pas tellement parce que c'est vrai qu'on est jeune, on est une enfant. Le mot maladie déjà, il est vachement inconnu à cet âge-là. Et puis bah moi après, ça restait juste des cheveux. Enfin, c'est vrai qu'à 7 ans, mes cheveux c'était pas grand-chose. Mais c'est en grandissant que c'est devenu beaucoup plus compliqué, ouais.
Alors, bon, on le sait, hein, l'adolescence, c'est une période qui est difficile à vivre pour tout le monde. Alors, quand on a, en plus, cette spécificité, c'est encore moins rigolo. Est-ce que vous avez souffert du regard des autres ?
Moi, ça a été vraiment, vraiment très, très dur parce que c'est vrai qu'à mes yeux, c'était toujours, et ça restera toujours, juste des cheveux. Enfin, pour moi, c'était pas vital et c'était pas essentiel. Mais à force qu'on me répète sans cesse que les cheveux, sans ça, je pouvais rien faire, que j'étais inférieure, que ça m'allait pas, que c'était pas moi, c'était vraiment compliqué, c'est vite devenu un complexe.
Mmh. Donc à 7 ans, vous avez commencé à perdre un peu vos cheveux, donc des petites pelades, mais en revanche, à 13 ans, tout est tombé.
Ouais, en l'espace de quelques semaines, sans savoir pourquoi ni comment, il y a tout, vraiment tous mes cheveux, ma pilosité corporelle qui est tombée, et je me suis retrouvée sans rien, et c'était vraiment, on était tous démunis.
Mmh. En revanche, vous avez gardé vos sourcils ?
Non, je les ai perdus aussi, et ils ont repoussé, il n'y a pas très très longtemps.
Il n'y a pas très longtemps. Et tout
longtemps.
Ça, ça s'explique pas, en fait, on sait
non,
pas.
Non, moi, je sais pas du tout. Et c'est vrai que c'est encore une maladie qui est assez méconnue. Enfin, elle est pas rare du tout, mais il n'y a pas de piste en soi.
Donc, j'imagine qu'à l'adolescence, enfin, quand vous avez perdu tous vos cheveux, 13 ans, ça a été les insultes. Comment est-ce qu'ils réagissaient, vos camarades, en classe ?
Alors, ça a été très rapide parce que moi, j'ai perdu mes cheveux dans l'enceinte du collège, en fait. Enfin, ça se passait pendant les cours, ça se passait dans la cour de récréation, ça se passait chez moi le soir. Et ça tombait très, très rapidement. Donc, moi, je ne le voyais pas spécialement parce que c'était sur mon visage. Mais les autres, eux, le voyaient tout le temps. Et j'ai été bien entourée par mes amis, mais après, par les gens qui ne me connaissaient pas plus que ça ou les plus grands de mon établissement. Là, ça a été très compliqué.
C'était quoi comme type de
réflexion ? Ça a été des rumeurs déjà qui circulaient, comme quoi j'avais un cancer, que j'étais contagieuse, que j'allais mourir. On m'arrachait mon bonnet que je mettais pour cacher ma perte de cheveux. On s'amusait toujours à me faire du mal, à me faire peur, à me bousculer, à me faire comprendre qu'il fallait que je me taise. Et ça a été vite du harcèlement scolaire qui a été super compliqué et qui m'a instauré ce complexe que moi, je n'avais pas au début. Quoi.
Ouais, en fait, c'est finalement eux qui vous ont créé le complexe alors que vous, vous le viviez plutôt pas si mal.
On m'a complexé d'une chose que j'aimais beaucoup, finalement.
Donc, ça a accéléré le complexe, vous le disiez. Et sur votre caractère, est-ce que vous pensez que ça a eu une influence ? Est-ce que ça vous a donné une carapace ? Est-ce que ça vous a fragilisé au contraire ?
Alors, au tout début, c'est vrai que ça m'a vite renfermée sur moi-même. Je parlais plus trop, je souriais plus. J'étais plus la petite Pauline d'avant sa maladie. Mmh. Et je pense qu'au fil du temps, oui, je suis tombée tellement bas que ça m'a permis de me relever finalement. Et maintenant, c'est ma carapace un petit peu. Je sais ce que j'ai vécu et je sais que je peux en faire une force aujourd'hui.
Et quand vous aviez, par exemple, tous ces camarades qui vous arrachaient le bonnet, qui vous insultaient, etc., comment vous réagissiez? Vous leur répondiez?
Non, je me laissais faire et je pensais que, bah, qu'ils avaient raison finalement. Enfin, à force qu'on te fasse ça pendant des années, tu te dis qu'ils ont le droit et que c'est leur droit à eux et toi, tu as juste à te laisser faire, quoi.
Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bon, bah, je vais arrêter les bonnets et pour éviter les insultes, je vais mettre une perruque?
Alors, moi, je ne le voulais pas parce que c'est vrai que la perruque, à mon âge, 13 ans, on se dit tous que c'est quelque chose de pour les grands, pour les malades. Et moi, je me sentais juste la petite Pauline qui n'avait pas besoin d'avoir ça. Mais c'est vrai qu'être chose, ce n'était pas non plus facile dans l'enceinte du collège. Enfin, ce n'était pas quelque chose qui était bien accueilli, on va dire. Du coup, mes parents m'ont proposé ce choix-là. Et bah, prise de panique, j'ai dit oui. Mais c'est vrai qu'après, tout de suite, c'est devenu très rapidement un poids. Et ça a été aussi, bah, finalement, le complexe de mon complexe. Parce que mettre une perruque, moi, je ne l'ai jamais voulu. Et pendant des années, je la mettais. Au début, je me cachais du regard des autres. C'était bien. Puis petit à petit, je me rendais compte qu'être comme tout le monde et être dans ses normes, dans ses cases, d'être une fille avec des cheveux, bah, ça ne me plaisait pas du tout. Et l'enlever, ça a été encore plus dur, parce qu'il faut reprendre le pli, finalement, d'être soi-même, et c'est compliqué. Mmh.
C'est étonnant, parce que quand on vous écoute, on se dit, mais finalement, elle était très bien dans ses baskets, sans ses cheveux, mmh. Et c'est vraiment les gens qui vous entourent, qui créent le complexe.
C'est exactement ça.
Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre?
Je pense que le plus dur, ça a été le regard des autres, justement, le fait de... Bah, de pas être soi-même et de devenir quelqu'un d'autre alors que moi je me sentais bien. Alors certes j'étais démunie, enfin, c'est vrai que perdre ses cheveux c'est pas quelque chose auquel on est préparé et à mon âge et dans une société pareille où il y a toujours des normes sur le physique c'était très compliqué, mais je pense que si ça avait été bien accueilli de toutes parts par les adultes comme par les enfants ça aurait été beaucoup plus simple pour moi parce que ça serait toujours resté juste des cheveux et je pense que c'est ça qui a été le plus dur, c'est ma période collège et la période de faut que j'apprenne à faire pour moi et pas pour les autres.
Vous aviez quand même des copines et tout, enfin un petit cercle, oui.
Oui, j'étais bien entourée, mais c'est vrai qu'on voyait toujours plus le mal que le bien finalement.
Mmh. Alors après, vous êtes entrée au lycée, vous connaissez personne, donc finalement c'est un nouveau départ, comment est-ce que vous l'avez abordé?
Au lycée, je me suis dit tout de suite, j'aurai ma perruque, personne ne saura que j'ai une maladie, personne ne saura que j'ai pas de cheveux, donc tout ira bien et j'en parlerai jamais. Sauf que, bah, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'oublierai jamais ce qui s'était passé au collège, que j'avais besoin d'en parler et que quand on me proposait des sorties pour aller à la piscine ou aux fêtes foraines, c'était super compliqué pour moi de refuser parce que je pouvais pas le faire à cause de ma perruque. Du coup, je me sentais vraiment mal parce que j'avais aucune justification à donner, je pouvais pas parler de ma maladie, j'étais pas libre non plus finalement et j'étais juste cachée sous quelqu'un que je n'étais pas. Et là, ça a été encore très compliqué, justement.
C'est un voyage en Finlande qui a tout changé.
C'est ce voyage-là en Finlande, en classe de première, qui a tout changé. Je suis arrivée, j'ai vu des douches communes et je me suis dit, décidément, la maladie, elle sera partout. Enfin, même en voyage, il faut qu'elle soit là, qu'elle pointe le bout de son nez. Et j'ai été super bien accompagnée par une professeure que je remercierai encore jamais assez. Et puis, bah, finalement, elle a tout fait pour que personne ne l'apprenne. Sauf que moi, à ce moment-là, je me suis dit, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour m'aider. Il n'y aura pas toujours quelqu'un qui sera là pour m'entourer dans ces moments-là. Et je me suis dit, OK, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'en parle et il faut que je me libère, il faut que je redevienne moi-même, finalement.
Mmh. Alors, le mois suivant, en mai 2019, vous avez donc décidé de créer un compte Instagram autour de l'alopécie. L'idée, j'imagine, c'était de briser les tabous, puis aussi peut-être de revendiquer enfin que vous étiez finalement pas si mal dans votre peau, que vous étiez une belle jeune fille et qu'il fallait... le crier haut et fort.
Je voulais raconter mon histoire et ça a été le moyen pour moi le plus simple parce que j'avais pas besoin d'utiliser ma voix en tant que telle et... J'étais finalement un peu cachée derrière juste des petites photos et petit à petit, je me suis libérée. C'était des photos de moi sans perruque. Petit à petit, j'ai même enlevé ma perruque au lycée. Et là, ça a été vraiment un pas incroyable parce que je me suis dit, bah, je me retrouve finalement dans tout ça. Et puis, bah, ce compte Instagram, il m'a énormément aidée, moi, maintenant, à retrouver la Pauline d'avant ces 7 ans et de me battre finalement et d'en faire une force aussi.
Oui, c'est ça. Vous avez des commentaires plutôt positifs tout de suite?
J'ai eu de super bons retours. J'avais très très peur au début parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va encore plus m'achever, ça va me mettre à terre. Et finalement, ça a été super beau, super bien accueilli. Et aujourd'hui, je me dis, sans ça, qu'est-ce que je ferais? Et c'est super important pour moi.
Oui, c'est bien. Là, on peut le dire quand même, les réseaux sociaux, hein, pour ça, avec tout ce courant, par exemple, de body positive, etc., ça crée des modèles pour des adolescents qui ne se sentent pas très bien. Et forcément, quand même, ça rend un tout petit peu plus tolérant. Ouais. Un côté positif d'un réseau social, il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des difficultés avec votre image?
Je pense que j'en aurai toujours parce qu'un humain, il n'est quand même pas doté d'une force qui permette d'avoir jamais de coup de mou. Enfin, on ne peut pas toujours se trouver parfait, on ne peut pas toujours être bien vis-à-vis du regard des autres, de la société. C'est dur de fermer les yeux complètement sur le regard des autres, justement. Et moi aussi, ça m'arrive des fois d'en avoir marre qu'on me regarde. Moi aussi, ça m'arrive des fois de me sentir un peu moins belle ou quoi que ce soit. Mais finalement, je me dis que c'est ça d'être humain et que le principal, c'est de se sentir un minimum bien, je pense, dans sa peau quand même.
Vous avez peut-être un message, non, à transmettre justement à toutes les adolescentes, tous les adolescents qui nous regardent, qui auraient une spécificité physique qui les empêche.
Je pense que j'aimerais juste leur faire comprendre, que ce soit les adolescents ou les adultes, peu importe, que finalement, le principal, c'est d'être soi-même et de se sentir bien. Et que c'est pas toujours facile et que je comprends vraiment qu'on puisse galérer à être bien dans son corps, à être bien dans sa peau, à être bien dans sa tête aussi, dans ses idées, dans une société qui nous rappelle toujours d'être quelqu'un d'autre. Mais quand on apprend vraiment à s'aimer, à s'accepter, bah, finalement c'est ça qui est beau et ça permet de vivre des choses incroyables aussi.
C'est à mettre en avant sa spécificité et donc son complexe, c'est une façon d'en faire une force.
Puis finalement son complexe, on est tous différents, donc on est tous beaux.
Ouais, on va terminer là-dessus, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Pauline ? Merci beaucoup d'être venue raconter votre histoire ce matin. Sophie Braun, bonjour. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Vous êtes auteure de « C'est quand la vie ?» Paroles de jeunes, éclairage d'une psy. J'ai mis le ton.
Absolument. Hein ? Absolument.
Voilà, c'est comme à l'école. C'est un bouquin dans lequel vous abordez notamment l'image de soi, les complexes chez les jeunes. Dieu sait que, je ne sais pas, autour de cette table...
Oui.
On a tous eu des complexes.
Bien sûr.
Bon, vous, Yasmine, vous êtes tellement belle, forcément, brune aux yeux bleus piscine.
Alors que moi, comme je suis dégueu, on comprend que j'ai plus.
Et voilà. Bon, je l'aurais pas dit comme ça, Benjamin. Mais...
Yasmine, elle est très belle, mais ça n'exclut pas les complexes.
Bien sûr, je sais très très bien.
Bien sûr, on peut être très belle et avoir des complexes.
Mais oui, c'est une... en plus, c'est un petit oiseau fragile.
À votre avis, elle doit être complexée de quoi ?
De rien du tout.
Non,
surtout pas lire. Alors, on a vu que Pauline a fait de son complexe une force. C'est pas un petit truc quand même de perdre ses cheveux à 13 ans. Hein. Au collège, on sait que les camarades ne sont pas forcément très bienveillants. Mais comment est-ce qu'on peut apprivoiser cette souffrance ? Parce qu'on n'est pas toujours assez fort face à ça.
Elle a une force incroyable. Hein,
oui. Elle a une maturité, une intelligence folle.
Je me disais en l'écoutant que c'est le moment où on passe du fait de subir quelque chose avec le sentiment qu'on n'y peut rien, et donc qu'on est en fait une victime de soi-même ou de la vie ou de ce qui nous arrive, au moment où elle devient active et où elle arrive à se dire... Ben, en fait, parce que, en l'écoutant, je me disais, il y a en fait des jeunes filles qui se rasent le crâne.
Oui. Hein,
comme un acte de revendication. Et celles-là, en fait, elles le vivent très, très bien. Elles marchent dans la rue avec assurance parce que c'est elles qui l'ont choisi.
Des décisions.
Oui, en fait, donc le cœur du truc, c'est d'être passif, de pas avoir choisi, que ce soit pas un choix, que ce soit imposé à soi.
Absolument. Et je pense que ce passage de « je subis quelque chose, je suis passive » à « je deviens active », c'est ce qu'elle fait au moment où elle passe sur Instagram, et c'est ça qui change tout. Et donc la question, c'est face à un complexe d'un jeune ou d'un moins jeune, parce qu'on en a tous des complexes, qu'on soit jeune, adulte, etc., on a tous des complexes, comment est-ce qu'on passe de la situation de « je l'ai subi » à « je deviens active dans ma vie, j'en fais quelque chose et je l'assume. Mmh. Voilà. Alors, c'est pas facile. Et à l'adolescence, en fait, c'est toute la question. Mais toute la vie, je crois, c'est toute la question.
Bien sûr. Hein.
Et elle a cette force-là. Merveilleux.
Donc, beaucoup de questions. La première envoyée en vidéo pour vous par Magali.
Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai une question pour la psychologue. J'ai un fils de 12 ans, il fait 1m65 pour 68 kg, il est très complexé, ça joue énormément sur sa scolarité et j'aimerais savoir comment nous pouvons l'accompagner, l'aider et surtout de les erreurs ne pas commettre en tant que parents. Merci.
Alors comment l'accompagner ? Et c'est vrai, c'est intéressant, les erreurs à ne pas commettre, les phrases à ne surtout pas dire, c'est compliqué. On marche sur des œufs, quand même.
On marche sur des œufs, parce qu'il faut à la fois être attentif au complexe. Le complexe, c'est l'expression d'une souffrance. Oui. Donc il faut être attentif à cette souffrance, mais se dire que ce n'est pas forcément le complexe lui-même qui est la souffrance. Là, il a certainement un petit surpoids, ce garçon, mais ce n'est pas si grave. Il va le perdre, il va faire un peu de sport, voilà. Donc, il exprime quelque chose. Alors, il faut à la fois être attentif à son complexe, à ce qu'il exprime, mais ne pas non plus en faire quelque chose d'encore plus fort. C'est-à-dire que si on lui en parle toute la journée, si on est trop attentif, si on souffre avec lui, il va finir par se dire « Ah bah oui, c'est vraiment grave, quoi ». Alors, on est en tant que parent, mais on est tout le temps en tant que parent là-dessus, sur cette espèce de fil qui est l'attention, mais pas non plus dramatiser.
C'est compliqué d'être parent.
C'est dur d'être parent. Et en fait, c'est pas si dur que ça. C'est dur quand on le dit. Mais bien sûr, c'est dur quand on se le dit comme ça, mais dans la réalité, c'est pas si dur comme ça. Réagissons avec notre corps, avec notre amour.
Et notre bon sens aussi.
On se trompe, et le bon sens, et puis acceptons de nous tromper. N'ayons pas de complexe de parents.
Mais pour être concret avec cette maman, est-ce que si elle lui dit, bon, bah, on va aller courir ensemble les week-ends et faire du vélo le mercredi, c'est bien, c'est déjà trop.
Les repas aussi, est-ce qu'elle doit cadrer?
Moi, je pense qu'elle, elle peut par exemple faire attention au repas.
L'air de rien.
Voilà, hein, déjà, sans forcément lui faire... Voilà.
C'est tellement bon.
Avec un poisson.
Elle peut effectivement lui faire faire du sport. Je pense qu'il ne faut pas non plus être dans le déni. Ça ne sert à rien non plus de dire à un gamin, tu n'as pas de problème de surpoids, parce que lui, il le pense. Donc, si on lui dit, tu n'en as pas, c'est aussi contre-productif. Donc, on peut effectivement, et on peut un peu contraindre les enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un mode éducationnel dans lequel on ne contraint plus jamais. Oui, on peut bien sûr l'inscrire à un truc de sport. Je ne suis pas sûre qu'il faille faire du sport avec lui. Ça peut, ça dépend des familles. Mais on peut surtout l'inscrire dans un club de sport, faire quelque chose. Alors, c'est difficile parce que s'ils ont un complexe, ils ne vont pas vouloir aller dans un club de sport. Et donc, c'est vrai qu'on est dans des mécaniques qui bouclent un petit peu. Voilà. Donc, il ne faut pas les contraindre à faire des choses qui pourraient être humiliantes. Et en même temps, il faut les aider à trouver les ressources en eux pour se dire, bah oui, bien sûr que je peux quand même aller faire du sport, et puis il y en aura d'autres qui auront peut-être 2-3 kilos de trop, et c'est pas si grave que ça non plus, et puis il va vite les perdre et il va vite se sentir mieux.
Alors justement, Marianne nous demande, qu'est-ce qui va faire qu'un enfant va être complexé ou pas ?
Alors, il y a plusieurs causes. Je crois qu'il y a d'abord des causes sociales aujourd'hui, et je crois que presque tous les enfants sont complexés. J'allais dire tous, mais... Allez, presque tous, et en tout cas, nous, les adultes, je crois qu'on est aussi tous complexés. Ouais. Donc, déjà, il faut peut-être baisser un petit peu l'intensité de la question. C'est pas grave qu'un enfant soit complexé.
Oui, mais en tant que parent, c'est vrai que ça nous, voilà, bah, ça nous fait de la peine.
Alors, bien sûr, ça nous fait de la peine. Ça nous fait d'autant plus de peine qu'aujourd'hui, on a envie que les enfants soient parfaits. Il y a une pression sociale qui est terrible sur la perfection. On veut qu'ils aient les dents alignées, on veut qu'ils aient exactement le bon poids, on veut qu'ils aient la bonne taille. Et on ne se dit plus que tout ça, ce sont des processus. Et que ce n'est pas figé, ce n'est pas parce qu'on a 4 kilos de trop à 12 ans qu'on ne sera pas longiligne à 18. Enfin, donc, donnons-leur du temps. Hein, donnons-nous du temps et donnons-leur du temps. Donc, il y a les causes sociales qui sont la compétition et le besoin de perfection avec une pression terrible, parce que je crois qu'on vit dans un monde qui est très angoissant et on veut en faire un peu des combattants de nos enfants et on veut qu'ils soient parfaits. Et donc ça, on pourrait un peu baisser cette pression-là. Après, il y a des causes familiales. Des parents très complexés, mais là, je ne veux pas redonner de complexe aux parents, mais des parents très complexés vont risquer de projeter des complexes aussi sur leurs enfants. Des parents plus détendus qui vont se dire, en fait, c'est pas grave, on a du temps, il va découvrir que c'est pas si grave que ça, il va s'en sortir. Et ben, ils vont effectivement peut-être faire des enfants un peu moins complexés aussi. Mais on ne complexe pas les parents.
Ma fille de 10 ans est de plus en plus complexée par son strabisme. Je ne sais pas comment l'aider. J'ai moi-même un strabisme et j'ai l'impression qu'elle m'en veut de lui avoir transmis. Ça, c'est dur.
Ouais, c'est dur. C'est intéressant comme question. J'ai l'impression qu'elle m'en veut de lui avoir transmis. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si la fille lui en veut ou si
elle culpabilise.
Ou si elle culpabilise et si elle projette sur sa fille le fait qu'elle lui en veuille. Donc déjà, je crois que ce qui est important, et la question vraiment le montre bien, c'est que chaque parent commence par se poser la question, est-ce que c'est moi qui ai un complexe là sur le strabisme ? Est-ce que je suis vraiment embêtée ? Est-ce que je culpabilise de l'avoir transmis à mon enfant ? Et il y a toute cette question-là de la transmission. Alors après, si elle est très complexée d'avoir un strabisme, c'est sûr que ça va être compliqué parce qu'elle ne va pas pouvoir dire à sa fille « Écoute, c'est peut-être mignon un strabisme. Et puis regarde, moi, j'ai vécu avec. Finalement, ça ne m'a pas empêché de vivre ma vie, avoir des enfants, rencontrer un homme, etc. » Donc, c'est peut-être pas si grave que ça. Et peut-être qu'on peut accepter justement nos imperfections à condition qu'on les vive justement comme quelque chose qui sont des différences et pas qui sont moins bien. Vous parliez des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la comparaison en permanence. Mais c'est une comparaison avec quelque chose qui est faux, parce qu'on est en permanence avec des images de gens retouchés. Donc, il faudrait éduquer aujourd'hui les jeunes et les adultes aux réseaux sociaux en leur montrant la photo de quelqu'un avant les retouches et après les retouches, pour qu'ils comprennent qu'on a tous des imperfections.
Alors ça c'est intéressant, il faudrait les éduquer, c'est sans doute le rôle des parents, mais tous les parents n'ont pas forcément les outils pour faire cette éducation. On peut imaginer peut-être qu'à l'école, il pourrait y avoir ce travail-là. D'ailleurs, c'est Clémence qui vous demande, avec les réseaux sociaux, y a-t-il plus d'enfants et d'ados complexés qu'autrefois ?
Oui, Moi, je pense vraiment. Alors, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est évident, et vous avez raison, je pense que l'école devrait aujourd'hui former aux réseaux sociaux et raconter des choses.
Ça va avec le cyberharcèlement, il n'y a pas qu'une histoire de complexe sur toutes les questions posées
absolument.
Par les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, parce que, alors effectivement, les gens se comparent de plus en plus, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur l'image, hein, ouais. Beaucoup plus que sur l'intériorité. Donc l'image devient fondamentale et les complexes viennent se polariser sur l'image de soi, sans forcément comprendre qu'effectivement, les autres présentent une image qui est une vitrine, mais qui n'est pas une réalité, en fait. Et les enfants jeunes, ils rentrent là-dedans, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à faire cette différence-là. Ouais. Donc déjà, il y a la question des réseaux sociaux. Et puis, il y a la pression qu'on met aussi aujourd'hui sur les enfants, effectivement, sur cette perfection. On est tous là-dedans. On y est pour soi-même, mais on y est aussi encore plus pour nos enfants. Hein.
Alors, les réseaux sociaux ont aussi de bons côtés. Mmh. Notamment, on l'a beaucoup vu, sur la libération de la parole des femmes, notamment sur le débat des violences obstétricales, je sais qu'il y a débat sur le terme. Ça permet aussi, parfois, de parler justement des différences.
Donc, c'est et sur le body positive aussi, c'est un courant aujourd'hui qui, justement, pousse à l'acceptation et à la fierté de son corps. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on a sur les réseaux.
On l'a vu avec Pauline. Hein, le moment où elle déclenche quelque chose, c'est le moment où elle accepte de montrer son image avec son crâne comme ça. Voilà. Et là, effectivement, donc les réseaux sociaux, c'est les deux. En tant que tel, les réseaux sociaux, c'est drôlement bien. Ça crée du lien et ça peut être très positif. Mais il y a aussi une utilisation des réseaux sociaux qui, effectivement, peut être très, très violente et très négative. Et ça, il faut y faire attention.
Alors Malika vous demande, ma fille a été en surpoids pendant des années, aujourd'hui elle a 15 ans, elle a réussi à perdre beaucoup de poids, mais elle reste toujours complexée, pourquoi ?
Alors ça c'est une question très intéressante. On le sait, l'image de soi ne correspond pas à la réalité, si tant est qu'il y a une réalité. Mais on met très très longtemps à changer la représentation que l'on a de l'image de soi. Ce qui nous oblige à penser qu'il y a d'un côté la réalité de notre corps et de l'autre côté l'image qu'on en a. Quand on parle d'un complexe, on parle d'une image de soi. On ne parle pas d'une réalité. Et là, on le voit très bien dans cette question. Des gens qui, par exemple, sont en surpoids vont maigrir. Il y a des gens qui perdent 20 kilos, 30 kilos. Ils se regardent dans une glace et ils se trouvent gros. Et ils se voient gros pendant encore des années. C'est-à-dire que le temps du corps n'est pas le temps psychique. Le temps psychique, c'est beaucoup plus long. C'est vrai aussi, par exemple, des anorexiques. Hein. Des jeunes filles qui pèsent 40 kilos et qui mesurent 1m80 vont se regarder dans la glace et elles vont dire « je suis grosse ». Ça veut dire que vraiment, et c'est là où c'est ça, on est au cœur de la question, je crois. C'est-à-dire qu'on prend toujours ce que dit le jeune pour une réalité, parce qu'on pense que c'est la réalité de son corps. En réalité, c'est la réalité de sa représentation mentale. Et c'est donc la représentation mentale qu'il faut changer. C'est à ça que ça sert d'aller voir un psy. C'est d'essayer de confronter l'image qu'on a de soi avec le corps réel. Et là, on retrouve quelque chose. Mais c'est toujours très, très long, ça. Et vraiment, merci de cette question qui est passionnante.
Et donc, la maman, du coup, là, qu'est-ce qu'elle peut, comment elle peut faire pour l'aider, quoi, sa fille ?
Alors, c'est très compliqué. C'est les moments où les parents, effectivement, ressentent beaucoup d'impuissance. Parce que dire à un enfant, mais non, tu n'es pas gros, quand on est un parent, ça ne sert à rien. Parce que l'enfant, il se dit, de toute façon, ce que me dit mon père ou ma mère, c'est parce qu'il m'aime.
C'est biaisé, bien sûr.
C'est biaisé, donc il ne va pas y croire. Je pense qu'effectivement, ça peut valoir la peine de prendre quelques séances chez un psy. Pas un psy qui va essayer d'enlever le symptôme. Hein. Un psy qui va se demander pourquoi cet enfant-là ou ce jeune-là, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, quelle souffrance ça exprime.
D'accord.
Voilà. Qu'on aille chercher la souffrance derrière. Parce que à chaque fois, il y a une souffrance derrière qui n'est pas la souffrance de « j'ai les oreilles décollées » ou « j'ai 3 kilos de trop ». C'est une mauvaise image de soi, c'est une mauvaise confiance en soi. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut travailler. Il faut dire à ces jeunes-là qu'ils ont les ressources pour supporter tout ça. Ils ont les ressources en eux. C'est un processus, ça va prendre un petit peu de temps peut-être, mais ils ont ces ressources-là. Ils sont beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. Et l'adolescence, c'est ce moment-là où les jeunes doivent rencontrer leurs ressources. Voilà. Hein ?
Alors, Eric a besoin de conseils concrets. Son fils est assez complexé. Il vous demande quelles sont les phrases à bannir.
Alors, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut essayer de trouver l'équilibre. Il ne faut pas dire non,
t'es pas
gros, les oreilles décollées.
T'es pas gros, alors, t'as pas les oreilles décollées.
Voilà, ça sert à rien. Il ne faut pas dire non plus, ah là là, c'est affreux, tu as 2 kilos de trop, c'est dramatique, tu vas, évidemment, ça va te gâcher toute ta vie. Il faut essayer de trouver quelque chose entre les deux, c'est-à-dire prendre en considération la souffrance et en même temps lui expliquer. Alors, moi, j'aime bien qu'on raconte pour soi-même, ce que je n'ai pas fait dans ma vie, mais j'aime bien qu'on le fasse, justement, peut-être parce que je ne l'ai pas fait, ouais. Que mes enfants me l'ont reproché. Dire, bah, tu vois, moi, à ton âge, j'avais ça, j'étais comme ça, et puis maintenant, regarde, je suis comme ça. Voilà, peut-être montrer des acteurs, des gens auxquels le jeune peut s'identifier, qui ont eux-mêmes des défauts physiques, par exemple, et qui, pour autant, sont très beaux et ont réussi leur vie.
Mettre de la perspective.
Voilà. Donner du temps, donner de la perspective et créer des identifications possibles. Mm-hmm. Hein. Voilà.
Claire c'est Gable, ça, et avec l'arrivée des réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des modèles maintenant. Donc ça, c'est quand même un très, très grand atout des réseaux sociaux aujourd'hui.
Oui.
Hein.
Oui. Mais alors, je voulais revenir effectivement sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est passionnant pour les femmes. Elles sont prises, les jeunes filles aujourd'hui, elles sont prises dans un double modèle. Mmh. Elles continuent à vouloir être parfaites, oui. Pas 1 kilo de trop, machin, etc. Et en même temps, il y a tout ce côté de libération des corps, où on peut avoir des poils, on peut avoir des kilos de trop, etc. Mmh. Et ça fait comme une injonction paradoxale dans leur tête.
Elles sont... Ça ne s'équilibre pas, du coup ?
Moi, je trouve que ça s'équilibre. Alors, il y en a pour qui ça s'équilibre. Hein. Mmh. Mais il y en a aussi qui sont complètement perdues, mmh. Où d'un côté, elles ont quand même besoin ou envie d'être très jolies, très séduisantes, et très séduisantes au sens classique du terme, mmh. J'ai envie de dire, parce qu'elles sont souvent très séduisantes, mais elles ne le savent pas. Et de l'autre côté, il y a une nouvelle injection, une injonction, une nouvelle norme qu'on leur met, contradictoire avec celle d'avant.
Mais les gens qui ont des paradoxes sont les gens les plus intéressants. Il faut le voir comme ça.
Non, mais la vérité se situe très certainement au milieu de tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu confusant. Hein.
C'est confusant. Ouais. Vous avez raison, c'est passionnant. Quand on dépasse, quand on accepte le paradoxe et qu'on arrive à le contenir en soi, là, c'est passionnant et c'est une richesse. Mais à l'adolescence, ça peut être un peu confusionnant.
Hein, bien sûr.
Et un peu, on est un peu perdu. Mais c'est pas grave. L'adolescence, c'est un âge où on est perdu. Mmh. Et les parents doivent accepter aussi que les jeunes soient perdus à l'adolescence. Un peu.
Pour les modèles à montrer, je recommande le compte Instagram de Will Smith. Je ne sais pas si vous avez vu ça cet été, il a mis une photo de lui où il a chopé du bide.
Ah oui.
Et il a un bon gros bide et il dit « J'ai jamais été aussi gros qu'aujourd'hui, mais je vais me remettre au sport. » Et moi, j'ai vu ça, je me suis dit « Bah si Will Smith a du bide... »
Eva Longoria aussi, je me souviens, on lui avait dit... Et elle faisait des couvertures. Hein, ouais. Là, elle est enceinte, etc. Et elle avait fait une émission, elle avait dit « Mais I'm not pregnant, I'm fat !» Donc, toute fière de pouvoir dire qu'elle avait pris des kilos, ça fait du bien.
On a le temps pour une dernière question ?
Oui.
Alors, Angélique nous dit « Mon fils de 7 ans a les oreilles décollées. Pour l'instant, ça ne le dérange pas du tout. Mais j'ai peur que ses camarades se moquent de lui. »
On y est.
Et que ça crée un complexe. Faut-il anticiper ?
Je pense que tant qu'il va bien, il ne faut pas anticiper. Ouais. Il faut le laisser tranquille. Alors, ça dépend de... est-ce qu'il a les oreilles très, très, très décollées, pas très, très, très décollées. Enfin, voilà. Ça peut très bien se passer. Il peut être... adorable, très mignon et même très beau avec des oreilles un peu décollées. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop anticiper. Et là, on entend les angoisses de la mère, effectivement. Hein ? Alors après, si ça devient une souffrance pour le jeune, évidemment, il faut s'en occuper et faire quelque chose. Mmh. Mais on ne va peut-être pas anticiper toutes les souffrances qu'ils pourraient avoir dans leur vie.
Voilà, merci beaucoup à Sophie Brown pour son analyse. Et merci beaucoup à Pauline d'être venu jusqu'à la maison des maternelles. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve demain, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Bien sûr, si vous pouvez nous suivre en direct sur France 2, eh ben, n'hésitez pas, ça commence à 9h25. Et puis sinon, il y aura le replay en fin de matinée via ce podcast. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain, j'espère.